À surveiller demain, Pierre-Yves, la Banque Laurentienne qui va présenter ses résultats, ses états financiers.
Trimestriel, Paul. Et pourquoi c'est important demain? Ça fait quelque temps déjà que le président est en place. Ça fait quelque temps qu'il dit qu'il doit changer son modèle d'affaires. Et sachons qu'au niveau des états financiers, quand il y a une information importante qui aura un impact important sur les états financiers, on doit le divulguer. Alors, imaginons le scénario suivant. Ça fait plusieurs mois qu'on parle de possibilité de grève, possibilité de lock-out à la Banque Laurentienne pour changer le modèle d'affaires ou pour forcer la main à la direction pour signer une entente. Donc, si on regarde ça froidement, si la direction a l'intention d'aller en lock-out, elle aurait de facto l'obligation de divulguer une provision pour l'impact financier de ça. Et si tu as à le divulguer, ça veut dire que tu l'annonces. Donc, est-ce que, là, je pose la question, Paul, vraiment, vraiment de façon très naïve, est-ce qu'il pourrait y avoir un lock-out décrété en même temps que la sortie des états financiers? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne veux pas dire ça, parce que c'est une information quand même importante, mais c'est pour dire que demain, on va en savoir plus long là-dessus.
Ouais.
Parce qu'il faut aussi savoir que la Banque Laurentienne, c'est un micro-joueur, là. Tu sais, les autres banques ont déclaré des milliards de bénéfices aujourd'hui pour un trimestre, quand la Banque Laurentienne, c'est des dizaines de millions de bénéfices dont on va parler demain. Et sa valeur marchande, ses centres de profit, ce n'est pas le réseau des succursales, mais c'est la vente de produits, c'est le conseil, c'est tout ce qu'il y a. Si on oublie les succursales, sont devenues pour la Banque Laurentienne des centres de coûts importants. Et quand on est concentré dans le marché de Montréal, on se bat contre des joueurs qui peuvent de toute façon nous avaler. Donc, pour regarder vers l'avenir, faut absolument regarder le modèle d'affaires. Alors, est-ce que l'avenir, ce sera de se faire acquérir par une autre banque? Et vu que c'est tout petit, peut-être qu'au niveau de la concurrence, ce sera possible. Ou ce sera simplement de changer le modèle d'affaires ou même peut-être un jour de complètement revoir ce qui existe comme opération à la Banque Laurentienne. C'est à suivre, mais j'ai hâte de voir les résultats demain. Est-ce qu'il se passera absolument rien ou il y aura une annonce?
Les experts prévoient qu'il va y avoir, pour une deuxième année consécutive, une baisse assez substantielle du bénéfice net trimestriel.
Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont beaucoup de coûts fixes. Hein? C'est dur de voir de la clientèle aux voisins quand les autres sont plus gros.
Bon, nous allons parler maintenant de Porto Vino. Ce n'est pas un nouveau vin, ce n'est pas un restaurant non plus italien, ça pourrait être bien quand même. Il y avait un restaurant à Montréal, Portofino. Mais un autre cas de fraude fiscale chez les restaurateurs.
Oui, on nous parle d'un lien avec cette marque-là. En fait, c'est qu'on nous dit qu'il y a 5 restaurateurs qui ont été condamnés à payer une amende d'1,2 million $ à Revenu Québec pour fraude fiscale et évidemment omis de payer la TPS-TVQ. Et c'est très intéressant de faire le parallèle avec la restauration au Québec parce que c'est vraiment basé beaucoup là-dessus. Je dis pas que les restaurants fraudent, je dis qu'il y a une portion de la restauration qui n'existe pas, c'est-à-dire des employés payés au noir, évidemment des pourboires déclarés à 8%, mais au minimum. Mais si, par exemple, dans ce cas-ci, on avoue ne pas avoir déclaré toutes les ventes, évidemment que les employés à pourboire n'ont pas déclaré tous leurs revenus puisque les ventes n'étaient pas toutes déclarées. Donc, tu vois, il y a toujours cette espèce de lien-là. On n'a pas avoir mis en place le système MEV, le module d'enregistrement des ventes au Québec. Il en demeure pas moins que les restaurateurs, parfois, font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour le contourner. Par exemple, faire un prix fixe pour tout le monde dans une soirée et simplement éliminer la facturation de ce genre-là, comme les parties de bureau, les parties de Noël. Aussi, on peut, avec des clients très réguliers, leur dire un petit rabais s'il n'y a pas de facture, ou simplement copier le modèle, c'est-à-dire carrément imiter la facturation, créer des duplicatas ou peu importe, s'arranger pour que dans le fond, éviter la déclaration de revenus. Donc, le client a l'impression de payer ses taxes, a l'impression que le restaurateur paye sa juste part, mais c'est pas le cas. Ajoute à ça que la restauration, c'est un domaine où on a beaucoup de besoin de beaucoup d'argent vite. C'est pas financé beaucoup par les banques parce que on n'aime pas ce milieu-là. Donc, il y a beaucoup d'argent qui peut servir, par exemple, du milieu criminel à être blanchi par les restaurants. On met beaucoup d'argent dans la restauration, dans l'établissement de locaux, dans l'achat, et après ça, on utilise le restaurant comme, excuse-moi en français, comme front. Donc, je ne parle pas de ce cas précisément-là, mais c'est pour montrer à quel point la restauration et la fraude fiscale, parfois, c'est un mode de vie, hein, c'est une façon d'opérer. Donc, dans ce cas-ci, on voit des gens qui se sont fait prendre avec la fraude fiscale au niveau de la restauration, du « apporter votre vin ». C'était aussi « apporter votre facture », probablement.
Aussi, probablement, c'est ça que j'allais dire. Le gouvernement Legault rejette la taxe pour le quartier des spectacles qui avait été demandé, d'ailleurs, par le milieu.
Qui avait sous-entendu, effectivement, une espèce de taxe contributive. Mais c'est un peu normal. Paul, pense-y. Mettons que tu es au quartier des spectacles et toi et moi, on va dîner pour un dîner d'affaires à côté. est-ce qu'on va nécessairement dîner à cause du quartier des spectacles? Non, c'est parce que c'est au centre-ville. Donc, tu sais, comme restaurateur, est-ce qu'on doit avoir une taxe supplémentaire simplement au fait qu'on est géographiquement situé près d'un spectacle? C'est quoi le rapport avec le mois de mars? Tu sais, le mois de février, c'est plus l'été où il y a un lien direct. Ajoute à ça que quand t'es un restaurateur et que t'es dans une agglomération où il y a beaucoup de spectacles, où il y a beaucoup d'intérêts, ben, ton loyer est en conséquence. Donc, ton loyer commercial te charge déjà implicitement des taxes d'affaires et aussi un loyer élevé en fonction de ta réussite financière et de la capacité à te générer de la clientèle. Donc, ce serait un peu drôle encore de dire aux consommateurs, va chercher un autre 3-4% pour une taxe liée au quartier des spectacles. Et autre point, Paul, c'est que le quartier des spectacles doit, au niveau des festivals, s'assainir. C'est-à-dire qu'on a eu une logique pendant des années de leur fournir beaucoup d'affaires, c'est-à-dire les infrastructures. Des avantages. On leur donne la police, hein. Faut bien que ce soit géré, ces spectacles-là. On leur donne beaucoup d'avantages, beaucoup de droits en tant que société, du financement. Maintenant, ce qu'on veut savoir aussi, c'est est-ce qu'il va y avoir un retour d'ascenseur? C'est-à-dire que les compagnies privées qui opèrent ces événements-là, bien que ce soit des OBNL, les événements, les compagnies privées, les event co de ce monde, montrez-nous vos états financiers, montrez-nous vos marges, montrez-nous où est-ce que vous allez prendre cet argent-là d'investissement dans le festival et le réutiliser pour faire des centres de profit ailleurs. Comme par exemple, tu crées une espèce de tournée, Paul, pendant un festival au centre-ville. Et tu crées l'espèce de spectacle à perte, si tu veux. Mais après ça, tu te dis, tout le développement va s'être fait pendant le festival. Mais après ça, je vais aller revendre ce spectacle-là partout à travers le Québec à profit. Donc, tu vois, faut de la transparence. Donnez-nous de la transparence, on vous donnera de l'aide. Mais est-ce que ça doit venir des commerçants? C'est une bonne question.
Alors, Pierre-Yves, tu nous quittes pour quelques jours. Bon courage demain. J'espère que ça va bien se passer.
Ben, moi aussi, Paul. Sinon, ben, je suis assuré, hein. Au moins, mes enfants hériteront de quelque chose.
Mais non, tu peux
rire. C'est une blague.
Ben, non, tu peux rire pas. Tu es entre bonnes mains. Tu l'as dit ce matin, d'ailleurs. Une fois qu'on est dans le système, ça
on est bien rentré. Donc, oui. je souhaite que les médecins m'aiment bien demain.
Oui, ou les super infirmières, peut-être. OK. Alors, salut et bonne chance.